Vous écoutez On lit pour vous.
Les neurosciences permettent de comprendre ce que la nature provoque dans notre cerveau. Un texte de Mar Estarelas, paru le 9 avril 2026 dans La Conversation. Vous est-il déjà arrivé de ressentir un apaisement dès que vous entrez dans une forêt? Ou peut-être avez-vous remarqué que votre esprit se calme lorsque vous regardez la mer? Nous savons depuis un certain temps, et beaucoup d'entre nous le sentent intuitivement, que se retrouver dans la nature nous fait du bien. Les neurosciences nous permettent désormais de comprendre pourquoi et ce qui se produit dans le cerveau dans ces moments-là. J'ai récemment participé à la rédaction d'une revue exploratoire sur les aspects neuroscientifiques de l'exposition à la nature, publiée dans Neurosciences and Biobehavioral Reviews, en collaboration avec des collègues de l'Université Adolfo Ibanez au Chili et de l'Imperial College de Londres au Royaume-Uni. Nous avons passé en revue 108 études de neuroimagerie évaluées par des pairs sur l'exposition à la nature et avons constaté que les résultats étaient cohérents. Lorsque les gens se retrouvent dans des environnements naturels ou même s'ils regardent des photos de la nature, le cerveau présente des signes de réduction du stress, d'allègement de l'effort mental et d'une meilleure régulation émotionnelle. Augmentation des ondes alpha et θ. Nous sommes nombreux à vivre dans des environnements qui maintiennent notre cerveau en état d'alerte avec la circulation, les écrans, le bruit, l'agitation et une constante prise de décision. Si les villes sont de formidables créations humaines, elles sollicitent fortement notre attention et notre système de gestion du stress. La nature, en revanche, semble offrir un tout autre type de stimulation auquel le cerveau réagit différemment. L'une des conclusions les plus marquantes provient des études par électroencéphalographie, EEG, qui mesurent l'activité électrique du cerveau. Dans de nombreuses expériences que nous avons passées en revue, les environnements naturels causaient une augmentation des ondes alpha et θ. Celles-ci sont associés à un état d'éveil détendu. Les études ont souvent mis en évidence une diminution de l'activité bêta qui est davantage liée à un effort actif ou à une charge cognitive. Pour résumer, le cerveau semble moins surchargé dans la nature. Cela ne signifie pas pour autant qu'il devienne passif ou somnolent. Disons plutôt qu'il passe à une forme d'attention plus calme qui nécessite moins d'efforts. Observez le mouvement des feuilles. Écoutez le bruit de l'eau ou remarquez les variations de lumière. Sollicite l'esprit de manière différente qu'une rue bondée ou un flot de notifications. Certaines études indiquent que ces effets peuvent se manifester rapidement. Dans plusieurs expériences de EEG, tant dans le monde réel qu'en réalité virtuelle, des changements sont apparus en l'espace de quelques minutes, parfois en seulement 3 minutes. Les effets sont généralement plus marqués lors d'une exposition plus longue, surtout si les participants passent au moins 15 minutes dans un environnement immersif. Baisse de l'activité de l'amygdale. Nous avons également passé en revue des études basées sur l'imagerie par résonance magnétique fonctionnelle, IRMF. Ces techniques permettent de mesurer les variations du débit sanguin liées à l'activité neuronale et d'observer quelles régions deviennent plus ou moins actives. Nous avons ainsi pu constater la diminution de l'activité dans les zones cérébrales impliquées dans le stress et la rumination chez une personne qui avait passé du temps dans la nature. L'amygdale, qui aide à détecter les menaces et à réagir au stress, devient alors moins active. Il en va de même pour le cortex préfrontal sous-génual, une région associée aux pensées négatives répétitives. D'autres études basées sur l'IRMF ont mis en évidence des modifications dans les réseaux impliqués dans l'attention et les pensées axées sur soi, notamment dans certaines parties du réseau du mode par défaut. Ces zones sont engagées dans l'introspection, le vagabondage mental et ce que l'on pourrait appeler le flux de fond de l'expérience intérieure. Dans la nature, ces régions se sont réorganisées de manière à favoriser un état mental plus calme et moins dispersé. Des effets en cascade. En passant en revue ces 108 études, nous avons constaté une tendance largement cohérente que nous présentons comme une cascade d'effets par laquelle la nature pourrait influencer le cerveau. Tout d'abord, les environnements naturels sont généralement plus faciles à traiter pour le cerveau. Leur forme et leur rythme suivent souvent des motifs fractals, comme ceux que l'on observe sur les côtes, dans les feuilles et les nuages, que le cerveau semble traiter facilement. Cela peut réduire la charge sensorielle et perceptive. À mesure que cela se produit, les systèmes liés au stress se stabilisent et le corps peut sortir du mode combat ou fuite. L'attention nécessite alors moins d'efforts et la gestion émotionnelle devient plus stable. Nous décrivons ce phénomène comme un circuit reliant la perception, la régulation du stress, l'attention et le traitement des informations liées à soi. La nature peut-elle modeler l'anatomie du cerveau? Certaines études indiquent que, au-delà des effets immédiats de l'exposition, la nature pourrait également influencer le développement du cerveau à long terme. Des études d'IRM structurelles suggèrent que le fait de vivre dans des zones avec de la verdure est associé à des différences dans l'anatomie cérébrale avec notamment davantage de matière grise et une meilleure intégrité de la matière blanche chez certaines populations. Ces études sont pour la plupart corrélationnelles. Il convient donc de les interpréter avec prudence. Elles ne permettent pas de prouver que la nature est la seule responsable de ces différences, mais indiquent la possibilité que de petits effets réparateurs, répétés au fil des mois et des années, puissent s'accumuler pour favoriser la cognition et la résilience. Ainsi, lorsque le temps passé en plein air vous procure une sensation de légèreté, de clarté, ou vous aide à vous libérer l'esprit. Sachez que cette sensation découle probablement du fait que votre cerveau est entré dans un autre état. Si nous comprenions un peu mieux comment la nature agit sur nous et comment nous interagissons à notre tour avec elle, nous pourrions peut-être mieux la protéger. Prendre soin de la nature, c'est aussi prendre soin de soi-même et des autres. C'était « Les neurosciences permettent de comprendre ce que la nature provoque dans notre cerveau », un texte de Mar Estarlas, paru le 9 avril 2026 dans La Conversation.
En route vers une 20e piétonnisation dans le village. Une chronique de Gabriel Rondy, parue le 22 avril 2026 dans le magazine Fugue. Chers lecteurs et lectrices, cet été, le village se prépare à vivre une 20e piétonnisation. 20 étés où la rue Sainte-Catherine-Est s'est transformée en artère vivante, un lieu où on marche plus lentement, où on se croise, où on s'arrête, où on se parle. Un lieu où l'espace public redevient, au moins pour une saison, un grand salon à ciel ouvert. Et je trouve ça fou, dans le bon sens du terme. Parce que derrière ce chiffre-là, il y a une vraie histoire de quartier. Depuis 2006, ce premier été où les commerçants et commerçantes ont voulu plus de visibilité, plus de monde, plus d'oxygène, on a vu la piétonnisation évoluer, se structurer, se professionnaliser. Au fil des ans, elle est devenue bien plus qu'une fermeture de rue. C'est un rendez-vous, une identité d'été, une façon de dire que le village existe, qu'il s'assume et qu'il continue de se battre pour sa place dans le centre-ville. Et je le dis sans filtre, atteindre ce cap-là, ça ne veut pas dire que c'est devenu facile. Ça veut dire qu'on a appris, qu'on a ajusté, qu'on a parfois recommencé à zéro, et surtout qu'on a continué à y croire malgré les tempêtes économiques, sociales, urbaines qui secouent notre centre-ville depuis plusieurs années. Encore plus d'animation, parce qu'un quartier, ça se raconte. Si je devais résumer notre intention en une phrase, on veut que le village se sente vivant du matin au soir. On veut que les gens aient une raison de venir et une envie de rester. Oui, il y aura des moments d'animation waouh, mais notre vrai objectif, c'est une trame quotidienne, une animation qui ne dépend pas seulement que d'un gros événement, mais qui s'installe doucement, semaine après semaine, pour donner un rythme au quartier. Et je vais être plate. Je ne vous en dis pas plus pour l'instant. Retrouvez-moi dans ma chronique du mois de juin pour connaître toute notre programmation estivale. Mais derrière cette programmation, il y a un ingrédient essentiel, la piétonnisation. Dans le village, elle est bien plus qu'une mesure de mobilité. Elle devient un outil de vitalité, un levier de développement économique local, un geste de design urbain qui dit « Ici, les humains passent avant tout ». Une fierté dans le village encore plus forte. On ne se le cachera pas. La période de la fierté, c'est un moment charnière. Pour l'achalandage, pour l'image, pour l'émotion aussi. Le village devient un point de ralliement naturel. Et c'est beau. Mais c'est aussi exigeant. Mon équipe est déjà à pied d'œuvre avec celle de fierté depuis des semaines. Et je le dis franchement, c'est un réel plaisir de poursuivre cette collaboration renforcée en 2025, quand ça se fait serré, dans le respect et avec une vision commune, ça change tout. Cette année, on veut solidifier cette force-là, mieux coordonner, mieux accueillir, mieux faire rayonner. Pas seulement en ajoutant des activités, mais en créant une cohérence, que les gens sentent qu'ils sont dans un quartier qui célèbre. Oui, mais qui prend soin de son monde. Prendre soin, ça veut dire des espaces propres, du mobilier bien positionné, une signalisation claire, une présence humaine sur le terrain, des lieux où on peut souffler. Ça veut dire aussi soutenir nos commerçants et commerçantes qui tiennent le fort pendant les grands pics d'achalandage et pendant les crues. Parce que la fierté, ce n'est pas juste une semaine sur un calendrier. C'est une culture, un héritage, une communauté et dans le village, ça se vit à l'année. Du mobilier repensé, plus confortable, plus logique, plus village. Une piétonnisation réussie, ce n'est pas seulement fermer la rue aux voitures, c'est l'aménager. Et l'aménager, ça veut dire penser aux besoins concrets. S'asseoir, se retrouver, manger, attendre un ami ou une amie, recharger son énergie, regarder un spectacle, jaser avec un ou une voisine. Cette année, on a le bonheur d'accueillir une nouvelle ressource pour nous aider avec le déploiement de la piétonnisation. Maude Emmanuel Rancourt, diplômée de l'UQAM, qui est avec nous depuis la mi-février pour mettre en place les différents éléments de la piétonnisation. Et je vous le dis, c'est toujours précieux d'avoir de l'énergie nouvelle dans une équipe. Des yeux neufs. Des questions qui nous obligent à être encore meilleurs, bref, du jus dans le bon sens. Nos troupes, déployées depuis 2024, vont revenir cette année sur la rue. Mais on travaille déjà sur une bonification pour vous permettre une pause encore plus agréable. Un nouveau plan pour l'horticulture, plus vert, plus durable, plus cohérent. L'horticulture dans le village, ce n'est pas un luxe l'été. C'est une manière de changer l'ambiance, de calmer certains usages, d'embellir sans exclure. C'est un geste simple qui peut transformer la perception d'un lieu. C'est aussi notre manière d'apaiser cet immense îlot de chaleur qu'est la rue Sainte-Catherine l'été. Cette année, on travaille avec un plan plus structuré, des choix de végétaux plus durables, une implantation plus stratégique, une cohérence visuelle par zone. Le mandat d'horticulture a été confié à la firme Nouveau Voisin, qui développera un plan d'ensemble visant à créer un parcours cohérent et incitant à l'exploration de la rue. On veut que le vert fasse partie de l'identité estivale du village, pas juste comme décor, mais comme expérience. Ombre, fraîcheur, apaisement, beauté. Et oui, c'est du travail, de l'arrosage, de l'entretien, de la réparation, de l'ajustement après un orage ou après un week-end achalandé. C'est là qu'on se rappelle que derrière chaque belle photo d'été, il y a des équipes qui travaillent. Beaucoup. Des nocturnes pour vous faire danser toute la nuit. Le village a une énergie particulière le soir. Une énergie de liberté, de fête, de rencontre, de musique qui se faufile. Cette année, on veut l'assumer davantage en créant des nocturnes qui donnent envie de prolonger la soirée de manière encadrée, positive, festive. Pas pour faire du bruit, mais pour renforcer l'idée que le village est un lieu culturel, un lieu de sortie, un endroit où l'on vit quelque chose qu'on ne vit pas ailleurs. Et pour nos commerçants et commerçantes, l'économie du soir compte. Le nocturne, c'est de la vitalité. C'est aussi une manière de rééquilibrer, d'offrir des expériences qui ne reposent pas uniquement sur la consommation, mais sur l'ambiance, sur l'art, sur l'animation, sur le sentiment d'être à la bonne place. Et nos alliés sur le terrain, jour après jour. Je le répète souvent, mais ça mérite d'être dit. Un quartier, ce n'est pas un décor. C'est un organisme vivant. Et l'espace public, ça s'entretient. Pendant la piétonnisation, nos alliés seront sur le terrain jour après jour pour entretenir les plantes, le mobilier et l'espace public, pour vous permettre une visite agréable. Ils font un travail immense, souvent invisible, et pourtant essentiel. Et quand on parle de prendre soin d'un quartier, c'est exactement ça. Être là le matin, être là après la pluie, être là après une grosse soirée, être là quand la rue a besoin d'amour. Si vous croisez nos alliés, prenez un moment pour leur parler, les écouter, les remercier. Ça fait toute la différence dans leur journée. Les partenaires qui tiennent la route. On ne fera jamais une 20e piétonnisation seule. Ce genre de projet tient debout grâce à des partenariats solides, municipalités, organismes, commerçants et commerçantes, équipes terrain, partenaires financiers. Et dans ce réseau-là, il y a des partenaires qui ne cherchent pas seulement un coup de pub, ils s'ancrent. Un partenariat, pour nous, ce n'est pas un logo sur une affiche. C'est un engagement à long terme envers un milieu de vie. Le village est un quartier humain, culturel et économique, et notre rôle est d'être présent là où ça compte, soutient Simon Derry, directeur général de la Caisse Desjardins du centre-ville de Montréal. Ces appuis-là permettent de faire plus, oui, mais surtout, ils permettent de faire mieux, d'être cohérent, de planifier, d'investir dans ce qui laisse une trace. 20 ans et la suite. 20 étés plus tard, la piétonnisation du village est devenue un symbole. Pas un symbole parfait, pas une solution magique, mais un geste urbain fort qui continue de prouver qu'une rue peut être plus qu'un axe de circulation. Elle peut être un espace de communauté, de culture, de fierté. Alors oui, on se prépare, on ajuste, on repense, on verdit, on anime, on danse. Et on entretient, jour après jour. Je vous invite à venir vivre cette 20e piétonnisation avec nous. À venir marcher, vous asseoir, découvrir, célébrer, danser. Et surtout, à venir ressentir ce que le village fait le mieux depuis toujours, rassembler. À très bientôt sur Sainte-Catherine-Est. C'était « En route vers une 20e piétonnisation dans le village ». une chronique de Gabriel Rondy, parue le 22 avril 2026 dans le magazine Fugue.
Conseils pratiques pour éviter les blessures. Un texte de Marek Cauchy-Vaillancourt paru le 26 avril 2026 dans la presse. En commençant la course à pied ou le vélo, on peut être tenté d'en faire trop vite. Cette surcharge peut mener à des blessures et freiner les ardeurs des plus motivés. La presse a recueilli les conseils de deux experts de ces disciplines pour vous aider à bouger sans qu'une blessure brise votre élan. Un objectif qui vous motive. Trouvez un objectif qui vous motive. Voilà le premier conseil que donne Blaise Dubois, fondateur de la Clinique du coureur, une organisation qui forme des professionnels de la santé et du sport. Si on arrive à garder un état de motivation élevé et qu'on ne se blesse pas, en fin de compte, bingo! On va pouvoir vraiment profiter au maximum des bienfaits de l'activité physique sur la santé. Et là, ça a vraiment un effet phénoménal. Pour maintenir la motivation et bénéficier des bienfaits sur la santé, Blaise Dubois suggère aux coureurs d'avoir un objectif où la personne s'accroche à un agent de motivation interne très fort. L'idéal est de s'inscrire à une course bien précise et de se concentrer sur le processus pour arriver dans de bonnes conditions à la course. Bref, quelque chose qui va vous donner l'élan nécessaire pour enfiler vos chaussures et délier vos jambes dehors. Y aller progressivement. La course à pied est un sport à impact. Chaque pas crée un stress sur les différentes parties du corps, lequel, heureusement, en profite pour se renforcer lors de la récupération. Il arrive toutefois que le stress mis sur le corps dépasse sa capacité d'adaptation. Apparaissent alors des douleurs et des blessures. Un coureur sur deux se blesse chaque année. C'est énorme, lâche Blaise Dubois. Pour éviter de rejoindre le lot, il suggère de quantifier le stress mécanique. Derrière ces mots scientifiques en apparence rébarbatifs se cache un concept tout simple. Y aller progressivement et écouter son corps. Il faut s'exposer très graduellement à l'activité qui va stresser vos tendons, vos muscles, vos os et vos structures, dans un rythme qui permet à votre corps de s'adapter à ce stress, explique-t-il. Courir tous les jours. Le corps s'adapte beaucoup mieux à des petits stress fréquents qu'à de gros stress peu fréquents, explique Blaise Dubois. Dans cette optique, l'expert suggère donc d'implanter une sortie de course dans sa routine quotidienne, un peu à l'instar du brossage de dents. Ainsi, pour deux coureurs identiques, celui qui court tous les jours aura donc moins de risques de se blesser que celui qui répartit son volume de course en une ou deux sorties hebdomadaires. Les journées où la motivation est plus faible, il suggère de sortir 5 petites minutes. Celles-ci seront suffisantes pour créer des adaptations bénéfiques pour le corps, même pour des athlètes aguerris. Des petits pas silencieux. Les nouveaux coureurs ont la chance de développer une technique de course protectrice pour éviter les blessures, alors que les coureurs expérimentés peuvent avoir plus de difficultés à la modifier. La clé? Faire beaucoup de petits pas, qui font peu de bruit. La fréquence à cibler est d'environ 180 pas par minute, plus ou moins 10 pas. Pour les amateurs de musique, c'est à peu près la fréquence de « Quand je serai grande » d'Ariane Roy, de « Togot d'angine de poitrine » ou de « Sèche tes pleurs » de Daniel Bélanger. Pour augmenter sa fréquence de pas, il est possible de courir avec des chansons à la fréquence cible. Les listes de lecture à cet effet abondent sur l'Internet, ou de faire un effort conscient pour faire de plus petits pas. La meilleure manière reste toutefois de porter des chaussures minimalistes, estime Blaise Dubois. Dans une chaussure minimaliste. Des chaussures avec de gros coussins devraient plus protéger des chocs et donc des blessures, non? C'est faux, nous dit Blaise Dubois. Le chercheur est catégorique. Des chaussures conçues pour éviter d'interférer avec le mouvement naturel du pied, qu'on dit minimaliste, aident à avoir une technique de course plus sûre. Concrètement, ce sont des chaussures flexibles, avec peu de technologie de stabilisation, un drop faible, peu épaisse et légère. Ces deux derniers éléments sont les plus importants. Ce sont vraiment eux qui altèrent la technique de course, dit-il. À vélo, pas besoin de matériel dispendieux. Les grands principes de l'entraînement à la course, en faire fréquemment, augmenter progressivement la charge, avoir une cadence rapide, peuvent également s'appliquer au vélo, croit le fondateur de la clinique Physio-Vélo, Guillaume Coutu. Comparativement aux adeptes de la course à pied, les cyclistes ont une plus grande marge de manœuvre avant de se blesser, comme le vélo n'est pas un sport d'impact. Il n'est pas nécessaire d'acheter des souliers à pédales automatiques, à clip en anglais, un vélo en carbone ou des cuissards lorsqu'on commence, dit-il en début d'entrevue. À Montréal, commencer à se mettre en forme sur un bixi, même à assistance électrique, ça compte. Il ne faut pas attendre d'avoir la machine parfaite pour faire du vélo, croit celui qui est également physiothérapeute. La douleur n'est pas normale. Pour plusieurs, l'entraînement à vélo est synonyme d'inconfort, de douleur, d'engourdissement, voire de blessure aux parties génitales. Ce n'est pas normal, dit Guillaume Coutu. On ne devrait pas avoir des problèmes au niveau du périnée, du plancher pelvien et des parties génitales. Il s'agit probablement de la première cause d'arrêt du vélo, croit l'expert. Ces douleurs peuvent arriver lorsque la selle est trop haute ou trop étroite. Elle te rentre dans les parties génitales. Le vélo est trop grand pour toi. Le guidon est trop bas, énumère l'expert de la bicyclette. Il est possible de faire mesurer ses os du bassin et analyser sa posture afin de choisir la selle idéale. Mais dans certains cas, un simple ajustement de la hauteur du siège ou du guidon suffit à rendre la pratique du vélo confortable. Physio Vélo propose d'ailleurs sur sa page YouTube des vidéos de vulgarisation sur ce sujet. C'était « Conseils pratiques pour éviter les blessures », un texte de Marek Cauchy-Vaillancourt paru le 26 avril 2026 dans La Presse.